à vos places. Alors, deux choses d'abord avant de reprendre le cours. La semaine prochaine, il n'y a qu'un séminaire, il n'y a pas de cours, pour des raisons techniques. Donc, ce sera Madame Jalil Asbeh, SBAI, puisqu'on me demande des orthographes, qui fera le séminaire et ça portera sur M. Robert Montagne. M. Robert Montagne est un homme essentiel dans la pensée française sur le monde arabe et musulman. C'est un anthropologue et sociologue. C'est lui qui a considéré aujourd'hui dans la sociologie, enfin anthropologique, comme le fondateur de la théorie segmentaire en anthropologie. Donc, c'est absolument colossal. Tous les grands anthropologues postérieurs se revendiquent de Robert Montagne. Et d'autre part, Robert Montagne était un islamologue politique à qui on doit toute une série de créations d'institutions, l'Institut français d'études arabes de Damas, enfin d'études de Damas, qui n'était pas d'études arabes à l'époque, en 1933, qui a créé le Centre des hautes études d'administration musulmane en 1935, ainsi que le Centre de politique étrangère avec le recteur Charletti, c'est-à-dire l'actuel Institut français des relations internationales. Et il a été professeur au Collège de France. Et il est mort assez précocement en 1954. Donc, Robert Montagne, c'est un pan essentiel et du savoir et de la politique française en terre d'islam. Durant la Troisième et la Quatrième République, et aussi sous Vichy, enfin sous la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été successivement conseiller de Végan en Algérie sous Vichy, et ensuite conseiller de Catrou en Algérie sous le gouvernement du Comité français de libération nationale, le CFLN. Donc, ceci parce qu'un certain nombre de personnes ici ne savaient pas qui était Robert Montagne, d'où le fait que je vous dis que c'est quelqu'un d'extrêmement important. Il est probable d'ailleurs que s'il n'était pas mort précocement, enfin relativement précocement, son influence aurait été encore plus considérable puisqu'il faisait son cours sur l'État moderne en Asie et en Afrique au Collège de France. Alors que son collègue de bureau, enfin, c'était celui qui inventait le mot tiers-monde. Donc, si Montaigne avait vécu plus longtemps, peut-être que cet État moderne n'est pas tiers-monde qu'il aurait emporté dans les analyses du monde de la seconde moitié du XXe siècle. Voilà. Alors ensuite, il y aura, pour que les choses soient claires, un séminaire le 4 janvier. Il n'y a pas de cours le 21 décembre, puisque c'est les vacances scolaires. Donc, le 4 janvier, ce sera M. Éric Verdeil qui parlera des problèmes de l'électrification dans les grandes métropoles arabes. Et le cours aura lieu. Et le 11 janvier, il n'y aura pas séminaire, mais il y aura cours, tout simplement parce que comme j'ai obtenu une prolongation, mais je n'ai pas pu l'avoir, l'amphithéâtre, pour le matin. Sinon, je vous aurais fait un séminaire de plus. Ce n'est pas parce que je suis avare. Mais voilà ce qui vous donne le calendrier. Donc, je vais revenir maintenant au cours. Donc, après la démission de Sharif Pasha, le Khedive est plus ou moins forcé de faire appel à Mahmoud Sami el-Baroudi, donc ce turco-circassien d'un côté, mais qui depuis le début de la crise a toujours été du côté du mouvement national et des militaires. C'est donc cette fois, le 4 février 1882, on met quand même le portrait du grand moustachu, là. Voilà, donc ça, c'est Mahmoud Sami el-Baroudi. qui forme donc le gouvernement avec Orabi Pacha, enfin Orabi comme ministre de la guerre. Mais maintenant qu'il a le rang de ministre, il va accéder au rang de Pacha. Donc c'est pour ça que je vais l'appeler Orabi Pacha, puisque nous sommes au temps des Pachas, Zaman al-Bachawat, comme on rappelle dans l'histoire égyptienne. Alors, les Européens conservent leur position dans le pouvoir égyptien, mais pour la première fois, les ministres Fellah tiennent les principaux postes d'autorité en Égypte. Même si le président du Conseil n'est pas un Fellah, c'est un turco-circassien. Alors, c'est là, toujours, qu'est la complexité des événements de 1882, puisque à la fois il y a la question ethnique, mais aussi l'importance des solidarités de classe sociale, parce que la grande propriété foncière, elle est à la fois turco-circassienne et Fellah, des projets politiques, le constitutionnalisme, et avec le brouillage supplémentaire, qui est le fait que les Européens parlent de ministère arabe, alors que la référence arabe est inexistante dans l'Égypte de 1882, c'est la référence égyptienne. L'Égypte aux Égyptiens, Maslan Mestriyen, c'est toujours la grande référence de 1882, et au point que toute la presse occidentale dit Arabi Pacha et pas Ourabi Pacha, insistant donc sur une dimension arabe qui est absente dans le discours, parce que pour un Égyptien de 1882, un arabe, c'est un bédouin. Et Dieu sait que les Fellahs détestent les bédouins. Alors, il faut ajouter en effet que Sienkiewicz avait été le consul de France à Beyrouth durant l'affaire de Medhat Pacha. Et donc, il a aussi ramené son complot arabe. Alors, il y a aussi des faits d'éducation. Les ministres Fellah, à quelques exceptions près, ne parlent pas des langues européennes, tandis que les turco-circassiens parlent des langues européennes, essentiellement le français. Donc, les interlocuteurs habituels des Européens, ce sont les turco-circassiens. Un Sharif Pacha parle le français comme s'il était né dans les faubourgs de Paris. Donc, les Européens ont plus de mal à sentir l'opinion publique parce qu'ils n'ont pas le contact de la langue. Ce qui est un phénomène qu'on retrouve ailleurs dans d'autres pays et dans d'autres États. Alors, c'est vrai aussi que, malgré tout, avec la formation en février 1882 de ce ministère Fellah, ou arabe, une partie des turco-circassiens commence à décrocher du mouvement national et à se rapprocher du Khedive. Et en même temps, vous avez aussi les intrigues dynastiques. Le prince Ali m'avait longtemps cherché à renverser Ismaïl et Tewfik pour prendre la place, parce qu'il s'estimait que c'était à lui qu'aurait devenir le Khedivia selon la loi du seigneurat et non pas de la primogéniture imposée par Ismaïl. Et donc, à un certain moment, Ali m'a financé des gens comme Jamal Eddin al-Afrani dans les années 1870 et avait utilisé la franc-maçonnerie pour essayer de saper le pouvoir du Khedive. Et puis, il y a aussi un autre décrochage qui est en train en partie de s'opérer, c'est le fait qu'une partie des Syro-Libanais qui jusque-là avaient rejoint le mouvement national par opposition aux fonctionnaires européens qui leur piquaient leur place, décrochent parce qu'ils commencent à s'inquiéter du slogan « l'Égypte aux Égyptiens » qui les marginalise à leur tour. C'est pour ça qu'il y a toujours un brouillard très compliqué sur ces événements égyptiens de l'année 1882 et qu'il est toujours très difficile d'en déterminer tous les tenants et tous les aboutissants. Alors, le but du ministère arabe, c'est de faire la constitution avec le contrôle du budget par la Chambre. Évidemment, les consuls y voient une conspiration militaire menée par un dangereux illuminé qui est Ahmad Ourabi, qui utilise la force militaire pour faire pression sur les notables. Alors, les Européens sont prêts à reconnaître qu'il peut y avoir un soutien populaire au ministère arabe, mais c'est parce que c'est le pan-islamisme. Et donc, ce n'est pas acceptable. Alors, la question reste aussi des idéologies. Il est certain que le mouvement national est un mouvement constitutionnaliste inspiré par le libéralisme européen. Mais il n'en reste pas moins que le taux d'alphabétisation masculine de la population égyptienne à ce moment-là de l'histoire doit être de l'ordre de 5 à 10%. Ce qui donne une alphabétisation totale, si on prend en compte les femmes, de moins de 5% en Égypte. Ce taux d'alphabétisation a doublé à peu près en 20 ans par rapport au début du règne d'Ismaïl. C'est-à-dire que même, il y a eu un effort dans ce sens-là. Mais il n'en reste pas moins que les gens sachant lire et écrire, ce qu'on va bientôt appeler en Égypte les effendis, et cette classe sociale des gens qui savent lire et écrire, l'effendia est extrêmement minoritaire dans la population égyptienne. Alors, si les effendis parlent de liberté, de constitution, de droit, il n'en reste pas moins que l'essentiel de la population égyptienne analphabète voit surtout la défense de l'islam. Alors, c'est là aussi, il est très difficile de pondérer les facteurs, puisque les auteurs européens voient le pan-islamiste, les slogans islamiques des populations, tandis que les sources écrites nous donnent un libéralisme égyptien. Et à chaque moment, c'est toujours difficile de discerner ce qu'il en est réellement. Alors, la question est de savoir s'il y aura ou non une intervention militaire de ce qu'on appelle à l'époque les puissances occidentales. Dans le langage de 1880, les puissances occidentales, c'est la France et la Grande-Bretagne. Faites attention. Et par rapport aux latins décadents que sont les Espagnols et les Italiens, et à la dictature, enfin, au régime autoritaire des trois empereurs dans la carte géopolitique de l'Europe. Alors, la question de savoir si les puissances occidentales peuvent intervenir seules ou non. Parce que si elles interviennent seules, est-ce qu'il n'y aurait pas une réaction du reste de l'Europe? Donc, tout le débat de février 1882 tourne sur cette notion qu'on appelle l'européanisation de la crise et qui, dans le jargon diplomatique d'aujourd'hui, serait appelée une internationalisation de la crise. Problème pendant ce temps-là, c'est que Blount est revenu en Angleterre et il intervient auprès de Gladstone pour le supplier d'éviter une intervention militaire, ce qui agace le consul britannique de se voir court-circuité dans la métropole. Mais si Blount est maintenant à Londres, il continue d'entretenir une correspondance avec Ourabi et les chefs du mouvement national. C'est-à-dire qu'il est à la fois le porte-parole en Angleterre et dans la presse anglaise du mouvement national égyptien. Et en même temps, c'est lui qui informe les nationalistes égyptiens de l'évolution de la politique britannique et du discours à tenir pour face aux Européens. Alors, on a beau essayer de tenir des discours, ça ne marche pas. Par exemple, Orabi va voir le consul de France pour lui expliquer que lui, il est le fils de la Révolution française. Je cite. Ce matin, Orabi Bey, le chef réel du cabinet, est venu me trouver. Je ne connaissais pas encore ce personnage, mais l'impression qu'il a produite sur moi a confirmé l'opinion que je m'en étais faite. C'est une sorte de prophète d'illuminé qui nage dans des théories très élevées, qui est très éloquent, dit-on, mais que je ne figure pas aisément discutant dans un conseil une question d'administration ou un fait d'ordre ordinaire des choses. Il m'a fait un pompeux éloge de la France sur l'appui duquel il compte. Il m'a appris qu'il s'inspirait de nos annales, qu'il avait lu l'histoire de la Révolution de Napoléon Ier. Il m'a exposé comme quoi tous les Égyptiens ne formaient à mes corps qu'un tout dont le Khedive était la plus haute expression. Il m'a déclaré lui aussi que les conventions seraient respectées. Mais il a ajouté que les droits du peuple égyptien seraient défendus et qu'il était prêt à verser son sang pour la patrie. J'ai cru comprendre, sans chercher à approfondir ce point, qu'il voulait parler du vote du budget intérieur. Comme il revenait encore sur ses dispositions à se sacrifier pour son pays, j'ai cru devoir lui dire que je ne voyais nullement la nécessité de prendre les choses au tragique. Cette conversation a été très longue. Je crois qu'Orabi Bey est sincère, mais que les adulations dont il est l'objet depuis plusieurs mois l'empêchent de se rendre un compte exact de la manière dont vont les choses dans la vie commune et qu'il a en outre une assez haute opinion de son rôle. Il ne doit point d'ailleurs être dénué de finesse orientale. J'ai été très circonspect dans mes réponses, mais nous nous sommes séparés en fort bons termes. Alors, les consuls, n'ayant pas d'instruction de leur gouvernement, parce que les gouvernements ne savent pas quoi faire, sont dans l'attentisme. Mais ce sont les contrôleurs financiers, donc Blenière et Colvin, qui, eux, veulent qu'on bouge, parce que sinon, ils sont en train d'être dépouillés par la Chambre des notables de leur compétences financières. Et l'anglais demande une intervention militaire et le français se déclare prêt à démissionner. Les consuls somment les deux de se tenir tranquilles parce que les sujets sont plus importants, enfin les sujets en cours sont plus importants que leur propre poste. Et Paris, vous savez, quand on menaçait de démissionner, on est parfois pris au mot. Et Paris accepte la démission de M. de Blinière, à condition qu'il ne la rende pas publique le temps qu'on lui trouve un remplaçant. Donc le résultat, c'est que le 12 février, le Paris et Londres envoient une note à l'ensemble des puissances européennes proposant un échange de vues sur la situation égyptienne. Du coup, tout ce que demandaient l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et la Russie, c'était qu'on les consulte pour montrer qu'ils existent, qu'ils ont un rang, une place dans le système international. À partir du moment où les Français et les Anglais les ont consultés, les autres puissances sont prêtes à leur donner carte blanche pour agir. Donc, l'hypothèque de complications européennes semble levée. Ils ont même maintenant reçu un mandat européen. Bismarck a même fait savoir qu'il était plutôt pour une intervention ottomane, mais que si c'était pas possible, il accepterait une intervention militaire franco-britannique au cas où l'Égypte tomberait dans l'anarchie. Alors à Istanbul, Abdelhamid, il est bien embêté dans tout ça parce que tous les acteurs de la scène politique égyptienne lui envoient des courriers pour lui demander d'intervenir. Abdelhamid n'a pas de sympathie particulière pour la dynastie de Mohammed Ali, mais il considère que le pouvoir de Khedive est légitime puisqu'il a reçu un firman de la Porte. Et donc, remettre en cause le pouvoir de Khedive, c'est le remettre en cause lui, Surtout, il ne veut pas de constitution en Égypte, alors qu'il a suspendu la constitution ottomane. Et comme pour le reste de l'année 1882, il continue à percevoir la crise égyptienne comme un gouvernement arabe. Cette conspiration qu'il a supprimée en rappelant Midat Pacha l'année précédente. Et puis, il s'inquiète pour son autorité de calife devant le prestige croissant qu'Ourabi a dans l'ensemble du monde musulman. Mais tout le monde doit reconnaître que si les discours politiques et les oppositions deviennent de plus en plus fortes en Égypte, jusqu'ici, il n'y a pas eu de violence. Que les Européens n'ont nulle part été inquiétés physiquement durant tous ces événements. Certes, les Européens sont très inquiets sur la volonté de remplacer les fonctionnaires européens par des indigènes, mais c'est tout, il n'y a pas eu de violence exercée contre eux. Alors, c'est pour ça que la colonie britannique et maintenant la colonie française commencent à faire campagne contre Ourabi Pacha, enfin Ourabi et les nationalistes. Quand Blount arrive à Londres, il trouve une Angleterre traumatisée par l'agitation irlandaise. On vient d'assassiner le gouverneur irlandais, enfin le gouverneur britannique de l'Irlande, par les Fenians, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Iran. Et donc, par conséquent, les libéraux britanniques qui sont au pouvoir, d'abord, sont très préoccupés par le dossier irlandais, mais surtout, eux-mêmes menant une politique de force en Irlande, sont moins sympathiques devant des gens qui se révoltent en Égypte. Vous comprenez, les gouverneurs, les hommes d'ordre préfèrent l'ordre partout dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les plus radicaux, parce que bon, qu'on appelle les libéraux, c'est une coalition, les libéraux, évidemment, il y a le vieux parti libéral qu'on appelle les Whigs, héritiers du XVIIIe siècle, et souvent appartenant à la grande aristocratie britannique. Un certain nombre d'anciens conservateurs alliés aux libéraux, comme Gladstone, qui avait démarré sa carrière au Parti conservateur. Et puis, il y a le groupe nouveau des radicaux, c'est-à-dire l'aile gauche du libéralisme britannique. Or, ce sont les libéraux, enfin les radicaux, qui sont les plus véhéments contre le mouvement national égyptien. C'est-à-dire un homme qui, quand même, commence à s'imposer, enfin deux hommes qui commencent à s'imposer dans la politique britannique. Le premier, c'est Sir Charles Dickouldack, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est la personnalité montante du Parti libéral, au point qu'on le considère comme le successeur probable de Gladstone. Il est alors sous-secrétaire d'État, enfin sous-secrétaire au Foreign Office. Né en 1843, Dalk a fait un tour du monde en 1866-67, juste à la sortie de ses études à Cambridge. Et il en est sorti un livre qui s'appelle Greater Britain, la Grande Bretagne, qui est un grand succès de librairie en 1869. C'est une apologie de la race anglo-saxonne à qui est destinée la domination du monde. Ce n'est pas une notion biologique, puisque les immigrants européens aux États-Unis deviennent des anglo-saxons. Il forge dans ce livre un concept intraduisible en français, Saxondom, ce qu'on pourrait traduire par saxonité ou saxonitude. C'est-à-dire cette entité saxonne, en quelque sorte. Alors, il faut bien comprendre, c'est très intéressant. Dilks, c'est la génération qui a abandonné le Grand Tour en Europe. L'aristocratie britannique faisait le Grand Tour en Europe pour faire, la culture, pour faire sa culture. Il parle le Grand Tour du monde. On est dans le monde de Jules Verne, du Tour du monde en 80 jours. Et donc, Delk a une vision impériale et non plus européenne de la géopolitique mondiale. Pour lui, l'extinction des races inférieures, comme les Indiens d'Amérique ou les aborigènes d'Australie, n'est pas seulement une loi de la nature, c'est une bénédiction pour l'humanité. Lors de son passage en Égypte, il trouve que le despotisme de Khedive est dans la norme des despotismes orientaux, c'est peut-être pas le pire, mais qu'évidemment, on ne peut pas le mettre au même niveau que le despotisme britannique en Inde, parce que les Anglais sont au service de la population indienne, évidemment. Le Khedive se croit l'introducteur de la civilisation occidentale, mais il ne fait que singer les vices des Français. Et là, on a le début d'une grande thématique britannique sur ces orientaux qui ont tous les défauts des Français sans aucune des qualités. Il est entré dans la carrière politique tout de suite, comme membre du Parlement. Durant la guerre franco-prussienne, il s'est rendu sur place en marquant d'abord une sympathie pour l'Allemagne par hostilité au régime de Napoléon III et par sympathie raciale, puisqu'entre Saxons et Germains, il y a une parenté. Mais le militarisme prussien et la proclamation de la République n'ont fait changer d'avis et il a basculé du côté des républicains français, nouant une très forte amitié avec Gambetta, à qui il maintient une correspondance force active durant toutes les années 1870, puisqu'on les voit quand il se rend en France. C'est lui qui a mené en partie la négociation sur le traité de commerce qui a échoué, mais il est partisan d'une intervention militaire conjointe franco-britannique. Alors, l'autre radical, encore plus important, c'est Joseph Chamberlain, Chamberlain en français, l'ancien maire de Birmingham, qui est considéré comme l'homme le plus important du gouvernement britannique en dehors de Gladstone. Certes, il est à cette époque chargé des affaires commerciales, President of the Board of Trade, et peu concerné par les affaires étrangères. Mais c'est un ancien homme d'affaires et considère que les porteurs de bons de la dette égyptienne doivent accepter les risques de leurs investissements puisqu'ils ont recueilli les profits. Il s'était montré hostile à la note franco-britannique en affirmant qu'il existait bien en Égypte une expression légitime de mécontentement et de résistance à l'oppression. Néanmoins, et ça qui est essentiel, Chamberlain est entré dans l'histoire, comme vous le savez tous ici, évidemment, comme l'inventeur de l'impérialisme, puisque toute la grande pensée politique de Chamberlain à partir des débuts des années 1880 va consister à renforcer la cohésion de l'Empire britannique pour en faire une entité politique globale, enfin au sens mondial du terme. Donc, pas de confusion quand Chamberlain utilise le terme impérialisme au début des années 1880, c'est d'abord pour consolider l'Empire et non pas pour l'étendre, même si en Afrique du Sud, il sera un des grands acteurs de l'expansion de la Grande-Bretagne conduisant aux guerres avec les Boers. Et là aussi, évidemment, je vais avancé dans le temps, Chamberlain, un peu plus tard, sera le seul grand homme d'État britannique à défendre le protectionnisme, pour créer un protectionnisme impérial, entrant donc dans une espèce de guerre religieuse, de religion en Grande-Bretagne entre les protectionnistes et les défenseurs du libre-échange, question qui va déchiré la politique britannique de 1880 à 1931, au moment où l'Angleterre abandonnera définitivement, enfin provisoirement en tout cas, libre-échange. Ceci pour vous rappeler une évidence d'histoire britannique. On vous présente toujours les Britanniques comme des pragmatiques, alors qu'ils sont capables de guerres idéologiques terrifiantes et sectaires à l'égal des Français, mais sur d'autres sujets. On l'a vu sur le Brexit, mais en 1880, enfin, la question du protectionnisme et du libre-échange est quelque chose qui va profondément diviser la politique britannique. Avec la curiosité, je vous le rappelle par rapport à aujourd'hui, c'est que c'est les classes populaires qui sont pour le libre-échange. Parce que ça permet de maintenir les prix des denrées alimentaires très bas puisqu'elles sont importées. Et donc le protectionnisme conduirait à une hausse du prix des denrées alimentaires et donc à une baisse du pouvoir d'achat de la classe ouvrière. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, les classes populaires britanniques sont favorables au libre-échange. Ceci, contrairement à ce que nous avons dans les discussions contemporaines. Alors, au début de 1880, Dilk et Chamberlain, quand ils rencontrent Blount, n'ont pas encore été vraiment hostiles au mouvement national. C'est l'évolution qui va se faire dans le premier semestre et qui va finir par faire des deux radicaux les acteurs principaux de l'intervention militaire britannique en Égypte. En revanche, les Blount se heurte au consul britannique qui est inquiet des manœuvres que Blount entreprend en Grande-Bretagne. Et donc, il y a maintenant des échanges extrêmement violents par lettre entre Blount et le consul britannique. Blount n'hésitant pas à accuser, à juste titre d'ailleurs, la colonie britannique, le correspondant britannique du Time Hockey, de créer de fausses informations sur la situation en Égypte, accusant de mauvais gouvernement les nationalistes, parce qu'en fait, l'enjeu est le maintien des fonctionnaires européens dans l'administration égyptienne. Et Blount explique partout en Angleterre que seul Orabé est le sauveur de l'Égypte, le seul qui luttera contre l'esclavage et qui réformera l'administration égyptienne. Le 22 mars, Blount est reçu par Gladstone, qui le laisse parler longuement, mais qui ne s'engage en rien. Puis ensuite, bon, comme Blount est quand même un aristocrate britannique, il se retire dans sa campagne et s'occupe de son hara, puisque je vous rappelle que la grande œuvre de Blount et de Lady Anne, c'est l'acclimatation des chevaux arabes qu'ils ont achetés dans la péninsule arabique à l'Angleterre. Donc il faut quand même qu'ils s'occupent de leur hara de temps à autre. Mais de sa campagne, il continue une correspondance active avec Ourabi, Mohamed Abdo et Abdallah Nadim, les trois têtes en quelque sorte du mouvement national. Alors, à Londres, bah, c'est l'indécision qui domine parce que toutes les solutions paraissent mauvaises. Une intervention avec les Français, ça ne peut pas donner quelque chose de positif. On pourrait aimer bien que les Ottomans interviennent, mais ce n'est pas possible parce que les Français s'y opposent. En plus, une intervention ottomane en Égypte risquerait de provoquer un soulèvement en Afrique du Nord, en Algérie et en Tunisie. Un vieux cheval de retour qui nous intéresse aussi, c'est Nubar Pacha, qui est de passage à Paris et à Londres, et qui prend plutôt la défense du mouvement national en disant qu'en agissant intelligemment, on pourrait manipuler dans le bon sens Ourabi et ses compagnons. En clair, ça veut dire qu'Ourabi, enfin que Nubar est en train de faire des offres de service aux Français et aux Britanniques. J'en sais pas plus parce que les mémoires de Nubar ne sont pas disponibles, ne parlent pas de cette période. Il y a un dossier Nubar que j'ai essayé de consulter, mais jusqu'ici, on ne m'a pas donné communication. Donc, le jour où, j'aurai enfin ce dossier qui comprend la correspondance de Nubar Pacha en 1882, j'en saurai plus sur son rôle. Alors, à Paris, l'idée de Freycinet, qui est absolument géniale, n'est-ce pas, c'est qu'il faudrait remplacer le Khedive par un homme fort en Égypte qui ne peut être que l'inévitable prince Halim, H-A-L-I-M, et donc l'ambassadeur de France à Londres, Tissot, qui est l'ancien ambassadeur de France à Constantinople, celui qui voyait des pans d'islamisme partout, sur instruction de Freycinet, suggère qu'on dépose, les Français et les Britanniques déposent Tewfik pour mettre à la place Halim. Il ne s'agit pas d'une proposition, mais d'un simple échange d'idées entre Français et Britanniques, avec question de savoir si Nubar est derrière le projet ou non, et évidemment un point supplémentaire. En tout cas, Sienkiewicz au Caire n'est pas informé de la démarche française proposant de déposer le Khedive. Alors, comme les Britanniques sont très bureaucrates, ils font tout un conseil des ministres pour étudier le sujet et on en conclut qu'il n'y a pas lieu d'échanger la situation présente contre l'inconnu. Ça, c'est une grande caractéristique des relations franco-britanniques à différentes époques. C'est qu'à chaque fois que les Français ont une idée, ils la soumettent aux Britanniques et que les Britanniques l'étudient tandis que les Français l'oublient. Et donc, on a parfois des kilomètres de dossiers britanniques sur une idée sujet venu de la France que les Français ont oublié dans l'intervalle. Bon, il y a un exemple célèbre, c'est au moment de Suez. Guy Mollet avait dit aux Britanniques, en 1956, pourquoi on ne ferait pas une union franco-britannique ? Et les Britanniques ont fait un énorme dossier d'études pour voir la faisabilité du projet, tandis que Guy Mollet avait complètement oublié le lendemain qu'il avait proposé ce sujet. Alors, donc, c'est pour ça que quand on fait les analyses croisées des archives françaises et britanniques, on a souvent des surprises de ce genre. Donc, le cabinet britannique décide que Tewfik reste le moins mauvais des Khedives possible et qu'il n'est pas question de laisser passer Halim. Et donc, à la bonne méthode britannique, on fait une indiscrétion dans la presse marquant que Halim n'est pas un bon candidat pour le Khedivia. Il n'est connu que comme le type assez peu recommandable de l'oriental parisianisé. Autrement dit, l'indiscrétion dans la presse, anonyme évidemment, est destinée à empêcher la candidature éventuelle du prince Halim. Donc, Français et Britanniques n'arrivent toujours pas à se décider. Et donc, il propose à la porte d'envoyer en Égypte un officier général qui, de concert avec deux officiers français et anglais de même grade, aurait pour mission de mettre fin à l'anarchie militaire et de consolider l'état de choses actuel. Les deux commissaires l'envoyé de la porte et les commissaires français et anglais pourraient ainsi étudier la situation en Égypte. Mais le problème, c'est que les Français refusent la solution britannique, qui mène néanmoins une proposition officielle le 28 avril 1882. Pour l'instant, en Égypte, toujours, c'est le grand calme. Le mois de mars 1882 est occupé essentiellement pour le consul britannique par le séjour en Égypte des deux fils d'Édouard, du futur Édouard VII, donc deux fils du prince de Galles, dont le futur roi George V. Tout le consulat est mobilisé pour les princes royaux, et donc on ne s'occupe pas de politique. La Chambre des notables, elle travaille activement à sa constitution et aux questions agraires. La presse arabe et la presse européenne se combattent sur la question des fonctionnaires. Orabi, qui est maintenant Orabi Pacha, travaille à épurer l'armée en mettant à la retraite plusieurs centaines d'officiers, majoritairement des turco-circassiens, qui sont remplacés par des officiers fellahs. Mais on ne peut pas vraiment parler d'élimination des circassiens, mais plutôt d'un rattrapage pour les éléments fellahs, des pertes qu'ils avaient eues sous le Khedivia d'Ismaël. Le 1er avril, Blount reçoit en Angleterre une lettre d'Orabi le remerciant pour son action en faveur de la cause égyptienne et la liberté règne en Égypte ainsi que le calme. Donc, on serait à peu près dans une situation tranquille si on ne découvrait pas une tentative d'empoisonnement de l'un des trois colonels et on va soupçonner l'entourage du Khedive d'avoir préparé cette tentative d'empoisonnement. Ah, ce n'est pas anecdotique, l'empoisonnement, c'est une vieille méthode de gouvernement ottomane. L'empoisonnement, en général, dans l'Empire ottoman, quand le sultan en avait assez d'un ministre, il lui envoyait une tasse de café un peu amère et l'affaire était réglée. C'est pour ça que l'édit de Gulane 1839 marquait spécifiquement qu'il était interdit d'empoisonner les hauts fonctionnaires. Et ça correspond à la mort à la romaine, vous savez, des sénateurs romains, quand l'empereur disait au sénateur « Il serait temps que tu mettes fin à ta vie », le sénateur s'exécutait en s'ouvrant les veines. Dans l'Empire ottoman, c'était du café amer. Mais ça correspond à la même chose, avec le même engagement. C'est-à-dire que si la personne se suicide ou accepte son sort, on s'en prend pas assez bien et à sa famille. Si elle résiste, on s'en prend assez bien à sa famille. Donc c'est une méthode plutôt élégante, somme toute. Et surtout au début d'avril, on découvre un complot tramé par des officiers circassiens qui auraient projeté d'assassiner Orabi et ses compagnons. Il est difficile de discerner si les intéressés se sont contentés de propos malveillants ou s'ils ont bien projeté d'assassiner le chef du mouvement national. Malais y voit une conspiration militaire pour provoquer des troubles et déposer le Khedive. Selon le consul de France, l'Angleterre aurait à ce moment-là pensé à avoir recours aux bédouins du Sinaï pour faire renverser le gouvernement égyptien. Ce qui n'est pas stupide, enfin, ce n'est pas en vain parce qu'il y aura en effet des contacts entre des émissaires britanniques et des bédouins du Sinaï durant cette période. Et il ne faut pas avoir du tout la carte géographique d'aujourd'hui. Les Sinaï, à cette époque-là, c'est un no man's land. Enfin, il y a des bédouins dedans, mais je dis, il n'y a pas de pouvoir organisé dans le Sinaï. Et donc, il y a une espèce de continuité territoriale entre le Sinaï et le Negev jusqu'au Sanjak de Jérusalem. C'est-à-dire que le Sinaï et le Negev font partie de la Badia, sur laquelle il n'y a pas d'exercice d'un pouvoir central effectif. Les choses changeront plus tard, à la fin des années 1898, les Ottomans prendront le contrôle du Negev. Par contre, l'Égypte, enfin la Britannique, sous contrôle britannique, ne prendra le contrôle du Sinaï qu'au moment de la Première Guerre mondiale. Donc les choses ne sont pas évidemment. Ceci aussi permet de comprendre les problèmes qu'il y a dans le Sinaï aujourd'hui. C'est que c'est un territoire qui fait partie du territoire égyptien, bien évidemment, mais sur lequel l'autorité du pouvoir central n'a pas en réalité qu'à peine un siècle d'existence et non pas une très longue durée. Ce qui explique aussi une partie de l'insurrection bédouine islamiste du Sinaï à l'heure actuelle. Mais ça, c'est un autre sujet. On ne sait même pas quelle est la limite frontalière entre l'Égypte et la Palestine dans cette période. Ce qui semble plus clair, c'est que le Khédive a accordé quelques concessions aux Bédouins, ne serait-ce que pour les calmer, parce qu'ils sont toujours des gens agités. Donc, pas de recensement, pas de recrutement et pas de corvée sur la population bédouine. Une lettre de Mohamed Abdou à Blount, le 25 avril, donne la version du Parti national. Les officiers mis à la retraite l'ont été pour des raisons régulières de service. Le titre de pacha accordé au rabbi ne l'a pas été par le sultan, mais par le khédive, parce que c'est le rang des ministres. Le parti national ne peut être l'instrument des Turcs, parce que tout Égyptien déteste les Turcs, qui sont des tyrans, et n'ont apporté que des calamités à l'Égypte. En cas de tentative turque contre le pays, l'Égypte prendra son indépendance complète. Le complot circassien a été tramé par le tyran, Pharaon, le pharaon en arabe, Ismaël. Contrairement à ce que disent ces messieurs de Londres, l'islam s'oppose à la continuation de l'esclavage, qu'ils viennent donc à El-Azhar expliquer aux musulmans leur religion. Le 30 avril, les officiers passés en cour martiale reçoivent leur verdict. Une quarantaine d'officiers sont déchus de leur rang et honneur et exilés dans les parties les plus éloignées du Soudan, ce qui est une pratique courante dans l'administration égyptienne. Quand quelqu'un déplaît au pouvoir central, on l'envoie du côté du Bahr el-Razal, c'est-à-dire vraiment au fin fond de l'Afrique perdue. Là. Et donc, même à l'époque du contrôle franco-britannique, c'était une pratique habituelle. Et la question de savoir si c'est le calife Ismaïl qui a organisé le complot ou non. Et dans ce cas, on suspendrait la pension annuelle versée par l'Égypte à l'ex-Khédive. Alors, Stiofik a demandé conseil au consul britannique sur ce qu'il doit faire et le consul britannique lui a répondu qu'il ne pouvait pas accepter un tel jugement qui avait lieu à huis clos, les accusés ne disposant pas de défenseurs. L'exil au Soudan est considéré par le consul britannique comme une sentence de mort. Le consul de France, lui, a une position plus réservée parce qu'il ne veut pas d'intervention militaire ottomane. Et l'idée des Français, c'est d'essayer d'arriver par moyen, par un autre, revenir en arrière à un gouvernement Sharif Pacha qui ferait des mesures libérales modérées. Et chacun s'accuse mutuellement de vouloir une intervention ottomane, puisque les Français et les Anglais disent « Votre projet de prince Halim, ce n'est possible qu'avec une intervention militaire ottomane. » De son côté, Tewfik a dénoncé auprès du sultan les condamnations des officiers et il accuse Orabi de réaliser l'unité arabe, de vouloir réaliser l'unité arabe et de rejeter l'autorité religieuse du calife. C'est-à-dire qu'il se frappe là où il s'est fait mal chez Abdul Hamid, le complot califal et le complot arabe. Et en fait, Tewfik est de plus en plus désemparé et ne compte que sur une intervention ottomane pour rester au pouvoir, quitte à sacrifier une grande partie des intérêts nationaux de l'Égypte, parce que sa survie politique est en jeu. Il a bien compris qu'on a pensé à le déposer, hein, soit par du côté des Français, soit du côté du mouvement national. Alors, Paris et Londres proposent une mesure de grâce envers les officiers et donc le Khédive s'exécute et signe devant les consuls généraux la commutation de peine des accusés en simple bannissement hors d'Égypte, les officiers conservant leur grade. Alors, toute cette confusion interne sur la scène politique égyptienne cache ce qui est en train de se dérouler au Soudan. La révolte religieuse qui avait pris son origine dans la région de Fashoda s'est maintenant étendue au Kordofan et au Darfour. C'est un Mahdi qui dirige le mouvement. Le mauvais état de l'armée égyptienne, qui est de surcroît concentré surtout sur la frontière éthiopienne, explique les succès de la rébellion. Et maintenant, la rébellion s'approche de Khartoum. Et donc, on commence à se poser la question au Caire de savoir si les Égyptiens doivent ou non évacuer Khartoum. Donc, c'est très intéressant qu'on regarde la presse parce que ça arrive en sous-main. On avait le grand thème du pan-islamique et puis on a le début d'une révolte mahdiste en Afrique. Alors, bon, les Français, les Anglais ne se rendent pas compte encore exactement de quoi il s'agit, mais bon, ça commence à inquiéter, en plus les Français en particulier, puisque je vous l'expliquais, les Français depuis longtemps sont obsédés par le risque d'un soulèvement musulman en Afrique du Nord mené par des confréries. Or, le mouvement qui est lancé au Soudan est un mouvement confrérique. Donc cette inquiétude est forte. Alors je voudrais... J'aurais voulu commencer un nouveau développement, mais je n'ai que 5 minutes devant moi, ce qui me gêne un peu, mais surtout qu'on va avoir une suspension de 3 semaines du coup. Donc je vais quand même aborder un peu, mais très brièvement. Je le reprendrai en intégralité la fois prochaine, parce que sinon ça ferait une coupure trop importante, parce que je voulais vous évoquer, parce que je dois faire un grand panoramique, la question d'Orient et le monde autour de 1880. Encore une fois, 1880 est un moment essentiel, puisque c'est la naissance de l'impérialisme, de l'ère des empires, du protectionnisme, l'entrée dans l'ère des masses, etc. Ce qui fait la spécificité de la question d'Orient et la multiplicité des acteurs et leurs interactions permanentes. D'où le résumé lapidaire, mais qui attendra 1922, fait par Arnold Toynbee, la question d'Orient n'est qu'une question d'Occident. Ne pouvant se partager l'Empire, les puissances tentent d'établir une tutelle collective répercutant les données de l'équilibre européen. En même temps qu'elles participent, voire dans certains cas suscitent les crises, les puissances tentent néanmoins d'imposer une régulation, d'où la succession de congrès européens et de conférence des ambassadeurs. C'est ce qu'on appelle le concert européen, première esquisse d'une gestion plurielle des affaires du monde, mais ce concert européen se construit essentiellement dans les tentatives d'introduire un ordre à l'intérieur de la question d'Orient. On a vu, par exemple, en Égypte, qu'à chaque moment, la France et l'Angleterre doivent tenir compte du reste du concert européen et d'obtenir des mandats des autres puissances européennes pour agir. Donc, il en résulte que les tensions internes du système politique européen se projettent dans l'espace ottoman, tandis que la conflictualité ottomane se répercute entre puissances européennes. Il en avait été ainsi dans les grandes crises d'Orient de 1833-1841 et 1853-1856. Ce qui va entraîner l'engrenage mortel, puisque le sort de l'Europe va inexorablement se lier à celui des territoires ottomans et post-ottomans pour déboucher sur l'attentat de Sarajevo et la Première Guerre mondiale. La conflictualité ottomane n'est pas due à une quelconque essence historique de ces régions du monde. Bien au contraire, à l'époque dite classique de l'histoire de cet empire, ces possessions avaient bénéficié d'une sorte de paix ottomane, troublée seulement par des conflits locaux. Querelles de pachas et de mamelouks, mini-guerres de paysans, opposition entre nomades et sédentaires. Dans l'ensemble, le système social hiérarchique et inégalitaire assurait plutôt une coexistence de communautés différentes dans un même espace. Les villes pouvaient se diviser en quartiers à dominantes communautaires distinctes. Les campagnes pouvaient avoir des villages de population mixte ou une succession de villages de confessions et de langues différentes. L'expression symbolique qui définissait l'Empire ottoman en était sa caricature, était les trois vilayettes de Macédoine, qui avaient un tel mélange de peuples que ça donnait naissance à un plat, la Macédoine de légumes. C'est la Macédoine des peuples a donné naissance à la Macédoine des légumes pour exprimer ce mélange de populations sur les mêmes lieux. Néanmoins, toujours selon l'expression de Toynbee, la question d'Occident était aussi représentée par l'occidentalisation et la modernisation des sociétés. L'ordre social traditionnel avait été démantibulé par l'émergence de l'État moderne et les progrès de l'instruction. La civilisation, entre guillemets, que l'Europe impose, mais qui est aussi souhaitée par les élites modernisatrices, conduit à l'émergence de nouvelles identités politiques avec leur terrible potentiel de destruction. Ce qui avait accompagné la balkanisation de l'origine avait été le nettoyage ethnique, d'abord entre chrétiens et musulmans, puis entre chrétiens. Passé 1878, ces identités nouvelles commencent à entrer en action en Anatolie et dans les provinces arabes. En Égypte même, l'Europe se voit opposer par des musulmans son propre discours de liberté. Elle se trouve ainsi semée de le reconnaître au prix de devoir alléger, voire supprimer sa tutelle, ou de le nier en affirmant que ces peuples étant musulmans, ils ne sont pas vraiment accessibles à ces idées de liberté. Mais alors, elle doit, l'Europe, reconnaître l'échec ou l'impossibilité de son œuvre civilisatrice. Si on apporte la civilisation, on apporte la liberté. Mais si cette liberté rejette l'Europe, c'est qu'on a échoué. Dans l'idée absurde des Français et des Britanniques, c'est que les populations orientales atteindront le vrai niveau de civilisation au moment où elles accepteront volontairement d'être dominées par les Français et les Britanniques. Sinon, ce n'est pas possible. Le dernier tiers du XIXe siècle est celui de la première mondialisation, si l'on définit cette dernière par les progrès des communications. Moi, je pense parler de mondialisation depuis Jules César ou Jean Giscard ou Tamerlan, qui ont été de très grands mondialisateurs. Après tout, les Mongols sont arrivés jusqu'aux rives de l'Adriatique. De ce point de vue, la mondialisation est un phénomène de très longue durée. Mais en revanche, ce que moi j'appelle la première mondialisation, c'est le moment où on bascule dans le temps réel et dans un système préordonné de transport. Le temps réel, c'est le télégraphe, puisqu'à partir de ce moment-là, en 1880, vous savez, à Londres, à Paris, les événements qui sont produits en Chine 2 ou 3 heures avant, le temps que les dépêches télégraphiques arrivent et soient transmises. Le système de communication, il est tout simplement exprimé par Jules Verne dans Un tour du monde en 80 jours. Vous n'avez qu'à aller dans une pièce dans laquelle vous avez l'ensemble des indicateurs de transport mondiaux pour faire un itinéraire qui vous permet de connecter les horaires de chemin de fer aux horaires des bateaux à vapeur, puisque chacun part à heure régulière des gares ou des ports. Donc, ceci est pratiquement achevé en 1880. Vous pouvez faire à Londres un plan d'itinéraire en 80 jours pour faire le tour du monde. C'est ça la première mondialisation. C'est le temps réel, qui est un autre exprimé dans Jules Verne, dans Michel Strogoff. Quand les deux correspondants de presse bloquent la ligne télégraphique entre la Sibérie et l'Europe pour donner des dépêches successives sur l'évolution de la révolte en Sibérie. C'est le temps réel. Non, Jules Verne est un révélateur extraordinaire de la fin du XIXe siècle et de cette modernité extraordinaire qui est celle de la fin du XIXe siècle. Si vous voulez comprendre ce monde de Jules Verne, enfin ce monde des années 1880, c'est le monde de Jules Verne. Et je vous laisse là méditer pour 3 semaines, avec obligation de lire Jules Verne pour le 4 janvier.